C'est le temps du carême, et le temps du carême, c'est un temps favorable pour se convertir. Et nous l'avons entendu dans le verset alléluiatique, cette phrase que nous avons lue entre la phrase d'acclamation. On nous a dit « Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume de Dieu est tout proche ». Et normalement, le premier jour du carême, qui est le mercredi des cendres, quand nous nous sommes approchés de l'autel, nous avons reçu les cendres, et le prêtre nous a dit « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Peut-être qu'il nous a dit aussi « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». En tout cas, le temps du carême, c'est un temps de conversion. Est-ce que nous voulons nous convertir? Est-ce que nous avons envie de nous convertir? Mais d'ailleurs, c'est quoi, se convertir? Alors, je retiendrai par rapport aux lectures d'aujourd'hui, trois points. Parce que se convertir, étymologiquement, cela signifie se tourner vers Dieu, se retourner vers lui. Mais pourquoi faire? Tout d'abord, pour le rencontrer. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu pour entrer en relation avec lui et pour le rencontrer. Et je reviendrai à la première lecture, ce beau passage du buisson ardent. Moïse, qui est dans le désert, et il rencontre Dieu à travers le buisson ardent. Peut-être que Dieu peut paraître inaccessible parfois, parce que Dieu, c'est le tout autre, c'est le tout puissant, c'est celui qui a fait le ciel, la terre, tout ce qui existe. Dieu, parfois, nous paraît lointain, il nous paraît parfois inaccessible. Et nous voyons comment Moïse, dans le désert, quand il voit ce buisson brûler sans se consumer, qu'est-ce qu'il fait? Il va ôter ses sandales, il va cacher son visage, parce qu'il a peur de voir Dieu qui est le tout autre. Mais Dieu va révéler son nom, un nom un peu énigmatique. Dieu va lui dire « Je suis celui qui suis ». Étonnant comme expression. En fait, il veut signifier par là Dieu qu'il est en plénitude. Seul Dieu existe en plénitude. Nous ne sommes pas à la source de notre existence, mais Dieu est. Il y avait une femme tertiaire dominicaine au XIVe siècle qui s'appelait Catherine de Sienne, c'est la sainte patronne de l'Italie, qui faisait dire à Jésus, elle avait eu des visions, une grande mystique, et elle faisait dire à Jésus, « Je suis celui qui est, et toi, tu es celle qui n'est pas. » Vous comprenez ce que ça signifie? Seul Dieu est. Nous recevons la vie d'un autre. Et vous savez, il y a aussi des moines qu'on appelle les chartreux, qui vivent dans retrait, dans la solitude, et leur devise, je vous la lis en latin, mais je vais vous la traduire, « Stat crux dum volvitur orbis ». Ça signifie quoi? Tout à l'heure, les enfants qui font leur étape de baptême ont regardé la croix. Et que signifie cette devise des chartreux? La croix demeure, tandis que le monde tourne. Le monde passe, le monde change, mais la croix demeure, car Dieu est. Et donc, voilà pourquoi Dieu dit « Je suis celui qui suis ». Je suis celui qui est, je suis celui qui demeure. Parfois, au lieu de traduire par « je suis celui qui suis », on traduit par « je suis qui je serai ». Alors ça, c'est une autre idée, c'est l'idée de permanence en Dieu. Dieu, il a été, Dieu, il est, et Dieu, il sera. Hein, Dieu, voilà, sa présence est permanente. Ou alors parfois, on traduit par « je serai qui je serai ». Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on découvrira Dieu dans notre histoire, dans notre vie. Si nous laissons Dieu vivre en nous. En tout cas, voilà, au-delà de toutes ces traductions du nom de Dieu, cela signifie quoi? Cela signifie que parfois dans nos vies, nous avons l'impression que Dieu est très loin, il est le tout autre, il est inaccessible. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage du début du livre de l'Exode, quand Moïse rencontre Dieu à travers le buisson ardent, nous allons découvrir que Dieu est aussi, et retenez cela, Dieu est le tout proche. Pour le chrétien, Dieu est le tout proche. Puisque Dieu va parler à Moïse, il va lui dire « J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai vu que tu es esclave en Égypte. Et je viens pour te libérer. Est-ce que nous avons la certitude dans nos vies que Dieu est là, le tout proche? Parfois, certains me disent, mais vous savez, Dieu, on ne peut pas le découvrir, il est loin. Mais Dieu, il est le tout proche. Saint Augustin disait, Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Il est dans le cœur de chacun d'entre nous. Et particulièrement dans votre cœur, vous, les enfants qui vous préparez au baptême. Il est là. Il faut simplement lui ouvrir votre cœur. C'est la première chose. Se convertir, se tourner vers Dieu, c'est vouloir entrer en relation avec lui. Et pour entrer en relation avec lui, pour le rencontrer, il faut lui ouvrir notre cœur, car il est le tout proche, il veut se faire le tout proche de chacun d'entre nous. La deuxième chose, se convertir, c'est quoi ? C'est dire merci à Dieu, c'est rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il fait dans notre vie. Et ça, nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Je ne sais pas si vous avez bien écouté cette deuxième lecture tirée de la lettre de saint Paul aux Corinthiens, où saint Paul raconte tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Il était esclave en Égypte et il va le libérer en le faisant passer à travers la mer Rouge pour le libérer de l'esclavage de Pharaon. Le problème, c'est que ce peuple qui a été aimé par Dieu, eh bien, il va connaître des difficultés dans le désert pendant 40 ans. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va murmurer contre Dieu. Il va même récriminer. Et ils vont se dire, oh ben finalement, c'était mieux avant quand on était en Égypte. Au moins, on avait de quoi manger. Maintenant, nous sommes dans le désert. Certes, nous sommes libres, mais nous sommes dans le désert. Nous avons faim, nous avons soif. Et le peuple va commencer à récriminer contre Dieu, à accuser Dieu. Ça vous arrive jamais, ça, quand on a des difficultés dans la vie? Parfois, on a telle ou telle difficulté et on en vient à dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Et on en vient à accuser Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé aussi dans le texte d'Évangile. Jésus nous raconte deux petits faits divers. Vous savez, parfois, on ouvre le journal, on voit des faits divers. Et bien là, il y avait deux faits divers dont Jésus nous parle. Il nous parle de l'affaire des Galiléens qui étaient venus prier paisiblement à Jérusalem et que Pilate avait fait massacrer. Peut-être parce qu'il fomentait une révolte contre le pouvoir romain. En tout cas, Pilate les a fait massacrer. Et un autre fait divers, une tour, la tour de Siloé, qui s'écroule sur 18 personnes. Bon, ça arrive parfois, malheureusement, dans notre existence, des catastrophes naturelles. Et dans ce cas-là, on se dit, est-ce qu'ils avaient péché, ces Galiléens? Est-ce que ceux-là qui ont connu cette catastrophe naturelle, ils avaient commis quelque chose de mal? Et parfois, donc, on en vient à accuser Dieu. Et on a l'impression que tous les maux de la terre qui nous arrivent, c'est parce qu'on a fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Eh bien, Jésus nous dit, vous vous trompez complètement. Dieu n'est pas là pour nous punir, pour nous envoyer des châtiments, car Dieu n'a pas créé la mort, il veut que nous vivions. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut que nous choisissions librement la vie. Donc il n'y a pas de lien entre la souffrance ou les événements catastrophiques parfois qui peuvent nous arriver et notre péché. D'ailleurs, un jour, vous connaissez peut-être aussi ce passage, nous sommes dans l'évangile de saint Jean au chapitre 9, on présente à Jésus un aveugle de naissance. Et les gens disent, il est aveugle de naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui a péché? Lui ou ses parents? Jésus dit, ni lui ni ses parents. Le mal ne vient pas de Dieu. Que veut nous dire Jésus aujourd'hui? Il veut nous dire que ce n'est pas notre péché personnel qui entraîne notre condamnation, mais c'est notre refus de nous convertir. Vous avez entendu cette phrase qui peut paraître un peu dure? Deux fois Jésus l'a dit. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Ça veut dire quoi? Ça sera une mort spirituelle. Nous vivrons loin de Dieu. Or, le baptême que plusieurs d'entre vous adultes dans cette assemblée et vous, les enfants, demandez, c'est une vie en abondance que nous voulons demander à Dieu. Donc, la deuxième chose, se convertir, c'est rencontrer Dieu. Se convertir, c'est aussi rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et surtout, ne pas l'accuser de tout ce qui nous arrive. Et essayer d'avoir un regard positif sur notre existence. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont peut-être plus optimistes que d'autres, ça c'est le caractère, mais demandons au Seigneur la grâce de regarder notre vie et de rendre grâce pour tout ce qui nous arrive, de beau et de grand. Ne soyons pas toujours en train de nous plaindre. Et ceux qui demandent le baptême, ceux qui font un cheminement aussi vers le mariage, regardez aussi, voilà, tout ce qui vous est arrivé. Regardez les signes de la présence de Dieu dans votre existence. Regardons-les et rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait chaque jour dans nos vies. C'était le deuxième point. Premier point, se convertir, c'est rencontrer Dieu. Deuxième point, c'est rendre grâce, dire merci à Dieu. Et le troisième point, se convertir, et je reviens aussi sur l'Évangile, c'est laisser Dieu vivre en moi pour que je porte du fruit. Et là, j'arrive à l'histoire du figuier. Vous avez entendu cette histoire du figuier que je viens de proclamer. Il y avait un figuier planté dans une vigne, et ce figuier ne donne pas de fruit. Alors, vous savez que dans la Bible, eh bien, tout a une signification. La vigne, ça symbolise le peuple de Dieu, la vigne. Et dans la vigne, il y a un figuier. Ce figuier symbolise chacun d'entre nous. D'accord ? Et puis, il y a un propriétaire qui s'occupe du figuier. Le propriétaire, c'est Dieu. Et il y a un vigneron qui veut faire pousser le figuier. Alors, il veut mettre du fumier pour le faire pousser davantage. Il veut le bêcher. Et ce vigneron, c'est le Christ. Qu'est-ce que ça signifie aussi, cette parabole ? Cette parabole signifie que Dieu s'occupe de chacun d'entre nous. Le vigneron qui s'occupe du figuier, c'est le Christ qui s'occupe de chacun d'entre nous. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, » dit Jésus. Alors, pour porter du fruit, eh bien, il faut être branché sur le Christ. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes invités à laisser la vie de Dieu, voilà, nous irriguer totalement. Et pour porter du fruit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut vivre de la prière, faut vivre des sacrements. Voyez, pendant le temps de carême, il nous est aussi proposé de nous confesser. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps que dans ce sacrement de confession, finalement, elle allait se confesser, mais elle ne sentait rien. Je lui disais, demandez la grâce de ressentir la présence du Dieu miséricordieux quand vous allez vous confesser. Et on ne va pas d'abord recevoir les sacrements, on ne va pas d'abord à la messe ou se confesser parce qu'on sent quelque chose. On y va parce qu'on croit que Dieu va pouvoir nous donner son amour et sa vie et nous faire grandir et va nous permettre de porter du fruit. Dieu qui t'a créé sans toi ne veut pas te sauver sans toi. C'est ce que disaient les pères de l'Église. Eh bien, pour porter du fruit, nous savons qu'il faut être branché sur le Christ. Il faut accueillir, ouvrir notre cœur pour accueillir sa vie en plénitude. Alors retenons cela. C'est ce temps du carême qui nous est proposé. On a encore un mois avant de célébrer Pâques. Eh bien, pendant ce temps de carême, nous sommes invités à nous convertir. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu. Et ça signifie quoi ? Ça signifie aller à sa rencontre, accepter de le rencontrer comme un ami. Ça signifie lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans notre existence. Et ça signifie le laisser porter du fruit en nous. Amen.